Bonjour à toutes et à tous. Nous allons débuter notre conférence sur la résilience des territoires en se focusant sur l'eau au cœur du génie écologique. Je représente l'Union professionnelle du génie écologique, qui est une fédération d'entreprises du génie écologique, les entreprises de la biodiversité. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trois entreprises adhérentes qui vont nous expliquer un peu comment le génie écologique est une solution pour les enjeux des collectivités sur l'eau. Donc, pour brièvement vous rappeler sans doute des problèmes auxquels vous êtes confrontés, avec les problèmes de milieux dégradés, d'artificialisation des berges, de la fragmentation des cours d'eau et la disparition des zones humides, certaines conséquences du dérèglement climatique et autres problèmes climatiques peuvent, on va dire, amener à des dégradations et à des conflits. Et le génie écologique est une approche qui s'appuie sur les processus naturels et donc considérer l'écosystème dans son entièreté permet de renforcer la résilience des territoires. Et je pense que Marlène Bast, une de nos adhérentes, donc de chez Améthène, va pouvoir nous en dire plus.
Oui, donc bonjour à tous. Merci. Effectivement, donc moi je vais vous parler du génie écologique en milieux aquatiques et notamment sur les pratiques et les innovations qu'on peut trouver techniquement. Donc le génie écologique, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des structures techniques et vivantes qui sont basées sur le vivant. Donc, on part sur des solutions qui sont fondées sur la nature pour répondre à des problèmes anthropiques tout en respectant les écosystèmes. Donc, les défis majeurs qu'on relève se composent de la dégradation des rivières et zones humides, répondent aussi à la perte de biodiversité et les impacts du changement climatique. Alors, les restaurations, quelques restaurations qui existent, on parle de la morphologie et la renaturation. Donc, par exemple, ça va être le reméandrage des rivières, l'effacement des seuils et la continuité écologique et la réactivation des bras morts et des annexes. Donc, ces opérations, elles permettent de vraiment recréer une vraie diversité écologique. On assiste à un retour, par exemple, des poissons, des invertébrés. Et ces solutions ont une réponse qui est immédiate et qui sont facilement mesurables. On constate aussi certaines innovations dans la bio-ingénierie des berges. Donc ça va être des aménagements qui sont quand même un petit peu plus communs. On parle de fascines, de boutures, de tressages végétalisés et de caissons végétalisés. L'idée, en fait, c'est de se baser sur la solution de la nature. Donc, on va dire les végétaux et en fait recréer naturellement ce qui existe par des techniques qui sont donc créées par des entreprises. Donc on peut aussi se baser sur l'ingénierie par le vivant. Donc en fait, on va utiliser des espèces ingénieures, notamment les castors, qu'on peut utiliser comme alliés pour, on appelle ça une approche du rewilding. Donc grosso modo, recréer l'esprit sauvage. Donc on assiste à une modification des paysages et ces restaurations de zones humides, du ralentissement des débits, des rivières et du rehaussement des sols. En termes d'innovation, dernièrement, on assiste quand même à une innovation avec l'intelligence artificielle qui arrive. D'ailleurs, cette intelligence artificielle est présente partout dans la société, mais arrive avec le génie écologique. Donc, plusieurs approches existent, donc avec des écoutes acoustiques sous-marines. Donc, par exemple, l'utilisation d'hydrophones pour suivre les poissons et la biodiversité, qui sont des indicateurs innovants pour la qualité écologique. On peut aussi utiliser de la vision par l'intelligence artificielle. Donc, utiliser cette intelligence artificielle en détection des espèces invasives, des plastiques, des déchets. Donc, pour cela, on utilise des caméras et des modèles embarqués sous l'eau. Enfin, une autre innovation, donc, ça va être la dépollution par les plantes et les micro-organismes, donc, en utilisant le lagunage naturel, la filtration biologique et la lutte écologique contre les cyanobactéries. Par ailleurs, on connaît tous, je ne sais pas si vous connaissez, mais un bon exemple est le projet Libellule dans le bassin d'Arcachon, qui est un endroit où maintenant des écoles interviennent pour se former au génie écologique. Donc en conclusion, le génie écologique combinait avant tout ce qui était nature et ingénierie, mais actuellement l'intelligence artificielle intervient pour que les technologies se rajoutent à cette définition. Donc c'est un domaine en pleine expansion.
Merci beaucoup Marlène. Ce qui a été assez intéressant, c'est qu'on a pu voir en fait toutes les techniques, enfin une grosse partie des techniques en génie écologique par rapport aux enjeux de l'eau. Et donc je propose à notre prochaine intervenante de nous présenter un exemple particulier, celui du canal du Midi.
Oui, merci. Alors, moi, je m'appelle Lynne Babiol, je travaille à BRL Ingénierie, qui est un bureau d'études dans l'eau et l'environnement. Moi, tout particulièrement, du coup, je travaille dans les infrastructures hydrauliques. Et du coup, mon témoignage est aussi là pour montrer effectivement l'évolution de la prise de conscience aussi qu'on a autour des solutions autour des cours d'eau. Puisque historiquement, effectivement, ces dernières années, on avait plus tendance à voir les cours d'eau comme un moyen, un vecteur, effectivement, d'aller plus vite, plus rapide, en traçant plus droit. Mais voilà, maintenant, les temps changent. Et là, c'est des exemples pour vous montrer aussi ce qu'on peut faire, mais aussi les limites qu'il peut y avoir, des fois, sur la prise de conscience et le rôle qu'a aussi le maître d'ouvrage, le décideur, dans les actions qu'on souhaite mettre en œuvre et pourquoi on le fait. Donc, j'ai choisi deux cas. Un cas sur le confortement du canal du Midi, qui est emblématique. Hein, tout le monde connaît le canal du Midi, qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Malheureusement, le chancre coloré a affecté du coup, les platanes de ce canal. Et il a fallu en fait, retrouver toute une harmonie dans l'écosystème, puisque en fait, les platanes sont progressivement abattues. Et le fait que les platanes soient abattues, eh ben, ça remet en cause la stabilité des berges. Puisqu'il y avait tout un contexte racinaire qui venait ancrer les berges et faire en sorte qu'en fait le canal ait été autoportant en fait grâce à ces arbres-là. Donc maintenant c'est plus le cas et la suppression de ces arbres a entraîné des glissements sur ces berges et il faut donc les remettre en avant et aussi valoriser et arriver à travailler avec des enjeux patrimoniaux qui sont très forts. Donc là c'est un exemple un petit peu avant-après sur des techniques en génie végétal qui ont été mises en place. Donc, comme je vous le disais, c'était dans l'idée d'arriver à recréer un milieu naturel avec ces enjeux patrimoniaux très forts, c'est-à-dire qu'il faut aussi travailler avec les architectes qui sont nombreux et en fait qui sont, comme l'itinéraire du canal du Midi est très étendu, hein, il va de Narbonne jusqu'à la mer. Il faut arriver à dialoguer avec beaucoup de parties prenantes, beaucoup de collectivités et en fait la vision, elle n'est pas forcément la même sur toutes les parties prenantes. Et donc, ça rajoute des complexités quand on veut proposer des solutions en génie végétal. Donc, je voulais aussi exposer quelques limites qu'il pouvait y avoir quand on ne prend pas en compte en fait, le fonctionnement vraiment qu'a pu exposer tout à l'heure du génie végétal, qui est en fait, le lien, l'interaction avec l'eau et le fait qu'on doit prendre en compte ce système-là pour que ça puisse s'ancrer. Notamment, le canal du Midi, il est vidangé actuellement. On va dire, c'est des périodes de chômage, c'est pas une vidange totale, mais le niveau d'eau est abaissé une fois par an. Et en fait, ce chômage-là entraîne une vidange assez rapide qui déstabilise encore plus les berges. Mais on fait ça parce que, du coup, la période de navigation, qui est l'enjeu principal du canal du Midi, doit être très court. Et donc, du coup, on réduit cette période de chômage. Et ça, en fait, ça entraîne un choix dans les techniques de génie végétal qu'on met en place qui est assez limitant. Et qui ne peut pas en fait, répondre notamment avec des techniques vivantes, puisque ça les détériore aussi. Donc voilà, il y a vraiment une prise de conscience de dire, OK, on veut mettre du génie végétal, on veut mettre des techniques qui sont intégrées avec le milieu, mais il faut aussi revoir nos modes de fonctionnement, revoir pourquoi on le fait et comment on le fait. Bon, maintenant, ce qui a été fait, c'est quand même très, très harmonieux et ça intègre toute la démarche architecturale qui était voulue. Mais il faut aussi considérer la durabilité de ce qu'on fait et comment on le fait pour que ça puisse être pertinent. Voilà, je voulais apporter aussi un autre exemple qui est particulièrement, pour le coup, vertueux là, pour les écosystèmes, qui est au travers de l'action qu'on agit sur les digues. Hein, donc, auprès des communes, on a souvent des contraintes vis-à-vis des inondations. Les digues, elles sont là pour protéger les habitations qui sont à l'amont, à l'aval de ces digues-là. Et en fait, on agit actuellement sur ce qu'on appelle du décorsetage de digue, c'est-à-dire qu'on va essayer de reculer la digue du cours d'eau pour réaménager les parties qui sont au plus proche des cours d'eau et les réintégrer dans le domaine du vivant. Donc on décale la ligne de la digue et à l'intérieur de la partie qui est restaurée, on va pouvoir mettre des aménagements qui sont vraiment adaptés à chaque espèce, avec des études spécifiques qui sont là pour effectivement juger de la pertinence par rapport au milieu et du fonctionnement hydrologique naturel. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, on a vu des techniques, on a vu des exemples. Moi, je propose à Eric, qui est notre dernier intervenant, d'avoir une approche un peu plus philosophique, peut-être, sur les enjeux du génie écologique et de l'eau, puisqu'on voit effectivement qu'il y a à la fois de l'innovation, à la fois du low-tech, aussi une réflexion plus profonde sur comment nous habitons ces berges et ces milieux. Eric, c'est à toi.
Ça marche là, oui. Je ne suis pas un spécialiste de l'hydrologie régénérative, je suis un généraliste de la biodiversité, mais je vais vous parler quand même d'hydrologie régénérative. Donc, je reviens dessus.
Attends, c'est le rouge.
Voilà. L'idée, c'est qu'on sort d'un paradigme où pendant des années et des années, on a fait partir l'eau de plus en plus vite pour éviter d'avoir à la gérer. Et aujourd'hui, dans le cadre des changements climatiques, des atteintes à la biodiversité, de l'hyperanthropisation des espaces aquatiques, on est arrivé à des situations d'enfoncement des lits et de déconnexion de l'eau par rapport à la terre. Et là, je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai inventé ça du tout, c'est plutôt théorisé par Baptiste Morisot et Suzanne Husky, qui ont fait un livre qui s'appelle « Rendre l'eau à la terre ». Et donc, l'hydrologie régénérative, c'est de rendre l'eau à la terre. Ça se développe en agriculture. On a des techniques qui sont telles que l'utilisation des baissières, la plantation de haies en ligne de niveau, la création de mares, etc., qui recréent de la vie du sol et qui recréent de la biodiversité. Et là, je cite le travail qui peut être fait par des agronomes comme Alain Mallard ou Sébastien Roumégous, qui sont des grands spécialistes pour rendre l'eau à la terre dans le milieu agricole, ce qui permet d'avoir des productions qui supportent la sécheresse, qui supportent la canicule au travers de cette organisation d'hydrologie régénérative. En milieu urbain, le fait de travailler, comme le fait Plantécité, sur le ralentissement de l'eau en milieu urbain, le fait de garder l'eau dans les noues, dans des bassins, etc., on est dans des situations où on se donne les moyens d'avoir ensuite une végétation qui va fonctionner et qui va en plus permettre de créer ce qu'on appelle l'eau verte qui est recréée par la végétation. Et c'est celle qui nous est très utile, c'est celle qui limite les effets de la canicule, qui limite l'effet des sécheresses. Et dans les masses d'eau, en général, on travaille de façon globale sur la reconnexion. Et là, l'image que vous avez, c'est l'image d'un bras mort qui a été réouvert sur une rivière. Et vous voyez qu'on a fait que l'eau est très proche de la terre. On est à l'étiage, on va prendre des crues, la rivière va bouger, mais l'eau est dans la terre, elle est ralentie. Et donc, à cet endroit-là, quand on aura un étiage relativement profond, toute l'eau qui a été accumulée dans la terre, elle reviendra à la rivière, parce que ce drain qui fonctionne en allant de la rivière vers la terre, ensuite, au moment de l'étiage, la terre redonne l'eau à la rivière. Et l'ensemble de ces éléments, ça nous permet aussi de diminuer la pression thermique qui est extrêmement importante sur nos rivières, principalement sur les petites rivières, sur les têtes de bassin. Et donc, on travaille aussi pour développer justement le fait de rendre l'eau à la terre. Et parmi les techniques, effectivement, tu citais les castors. Les castors, ils ont coévolué pendant 8 millions d'années avec les rivières avant que Homo sapiens intervienne il y a 450 000 ans. Et donc, pendant ces 8 millions d'années, ils ont coévolué avec l'ensemble de la faune, que ce soit l'entomofaune, l'avifaune, que ce soit même les mammifères. Et donc, ça a été relativement dégradé par nous, par l'anthropisation de nos espaces. Et aujourd'hui, quand on regarde la façon dont les castors réinterviennent, quand on leur redonne des espaces de liberté, on a des retours depuis une vingtaine d'années maintenant aux États-Unis, depuis une dizaine d'années en France. Et donc, ce qu'on propose, nous, en travaillant sur l'hydrologie régénérative, c'est de faire des techniques low-tech, qui sont des techniques similaires castor, qu'on peut faire pas partout, mais dans les têtes de bassin, etc. Donc, c'est un outil de plus parmi l'ensemble des outils qu'on peut avoir. Donc, globalement, la gestion des rivières de demain, c'est sûrement le reméandrage, coucher les berges, redonner des espaces de liberté, reconnecter la terre à l'eau, et puis traiter les têtes de bassin. Et en faisant ça, on a un effet qui n'est pas seulement sur la biodiversité. Il est fondamental sur la biodiversité, mais il est aussi fondamental parce qu'on crée du puits de carbone, on crée de la fraîcheur, on crée de l'eau verte et on rentre dans les quatre objectifs de la gestion des eaux qui sont la préservation des personnes et des biens, la préservation de la biodiversité aquatique et terrestre et la préservation de la qualité et de la quantité des masses d'eau.
Merci beaucoup. Donc, on a vraiment un panel qui vient, on va dire, s'enrichir mutuellement avec des idées plutôt techniques, mais aussi des visions plus globales pour notre avenir. Et donc, je propose une question à notre panel pour ensuite ouvrir sur le public. C'est maintenant qu'on a vu que ces techniques de génie écologique pouvaient vraiment répondre aux enjeux de l'eau, comment convaincre les maîtres d'ouvrage et les décideurs d'adopter des solutions de génie écologique plutôt que des solutions plus classiques, bétonnées ou en rangement ?
Je pense que déjà, on peut parler du retour d'expérience qu'on a sur tout ce qui est génie écologique. On a un retour d'expérience suffisamment important pour savoir que ça fonctionne, que le prix est moins cher et que d'un point de vue esthétique, quand même, la population est assez agréablement surprise de ce que ça donne. On peut vraiment parler d'un aménagement qui est plus durable et qui est adapté au changement climatique. Il y a une meilleure acceptabilité sociale actuellement par rapport à il y a plusieurs années. Et il y a un bénéfice pour le territoire, de manière, grosso modo, par exemple, sur l'intervention, comme j'avais dit, des écoles, comme pour le projet Libellule, ou même ça peut être des lieux de vie et des lieux de balade, par exemple, pour les administrés. Donc, effectivement, voilà, ça peut être des arguments qui peuvent convaincre les maîtres d'ouvrage.
Lynn, est-ce que tu as peut-être un retour d'expérience avec une collectivité ou un autre projet ?
Oui, effectivement. Enfin, je crois que vraiment, la question, c'est arriver à faire prendre conscience du pourquoi est-ce qu'on fait ça et quel est vraiment le besoin autour de cette nécessité d'arriver à changer des fois les techniques, pourquoi on le fait. Et donc moi, je voulais prendre le retour d'expérience qu'on a avec les voies navigables de France, donc qui ont un réseau très étendu hein, sur toute la voie d'eau. Et en fait, on en parlait notamment ce matin dans les conférences qui retraçaient les contours du marché qu'il y a entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les différents acteurs qui interviennent autour en fait, de ce processus. Il faut savoir que voilà, on est lié par un certain contrat et des fois le contrat il n'est pas adapté en fait vraiment à ce qu'il faudrait faire. Et donc la question c'est de se dire ben, est-ce qu'on arrive à re-questionner le maître d'ouvrage sur qu'est-ce qu'il veut faire vraiment et essayer des fois d'aller plus loin de ce qu'il a déjà fait dans son contrat. Donc on a mis en place en fait des petits ateliers participatifs avec l'ensemble des parties prenantes de Voies Navigables pour essayer de lui faire toucher du doigt. En fait, agir avec des contrats qui sont au droit de chaque barrage, par exemple, de navigation, hein, de chaque écluse, puisqu'au départ, les voies navigables, c'est un besoin de faire naviguer les bateaux, hein, comme son nom l'indique. Ben, en fait, ce regard-là, il est vraiment très en aval du silo, et que si on remonte dans le silo pour essayer d'élargir son regard, ben, on voit qu'en fait, il y a tout l'itinéraire qui est cohérent. Et donc là, se posent les questions ben, des corridors écologiques, est-ce qu'il peut y avoir une trame, effectivement, qui vont lier les différents ouvrages. Et toutes ces questions-là, si on les segmente contractuellement, ouvrage par ouvrage, eh ben, on perd ce sens-là. Donc je pense que c'est important d'essayer de repositionner le questionnement de pourquoi est-ce qu'on le fait et qu'est-ce qu'on veut vraiment apporter.
Merci beaucoup. Eric, tu veux rajouter quelque chose ?
Alors, il y a un élément important, c'est que il faut s'intégrer dans les atteintes extrêmement violentes sur la biodiversité. On est dans, aujourd'hui, quand même un début d'effondrement de la biodiversité qui nous touche et que ça va avoir des impacts sur la vie de nos concitoyens, de nos cohabitants. Et à partir du moment où on a ça vraiment en option, qu'on intègre ça aussi dans le cadre des changements climatiques, on regarde les éléments qu'on propose, que ce soit le reméandrage, que ce soit le travail sur les têtes de bassin, sur la reconnexion des rivières aux zones humides, etc. On est sur la réparation aussi de la biodiversité. Et cette réparation de biodiversité, je ne suis pas capable de vous dire ça vaut tant d'euros ou tant de millions d'euros. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, moi, je ne serai plus là. Et ces éléments-là, ils sont fondamentaux pour demain. C'est-à-dire que dès qu'on a des espaces de liberté pour les zones humides, dès qu'on a des espaces de liberté à donner aux rivières, dès qu'on a des espaces de liberté à donner à la faune, on sera dans des situations où on donne du bénéfice, et du bénéfice qui est aussi en termes de fraîcheur, en termes de paysage, en termes de qualité de vie pour l'ensemble de nos cohabitants.
Merci beaucoup. Je pense qu'on peut maintenant passer à un moment de réponse questions. Normalement, il y a un micro dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, c'est pas grave. Moi, j'en ai pour mes panélistes. Moi, j'ai une autre question. Donc, on a parlé effectivement de comment convaincre. Eric mentionnait le fait qu'on ne peut pas forcément avoir des bénéfices, on va dire, mesurables, en tout cas court-termistes. Est-ce que vous avez des techniques pour justement montrer quand même qu'il y a des bénéfices mesurables sur le court terme, mais surtout sur le long terme de ces nouvelles techniques ?
Oui, tout à fait. Certains sont mesurables. Par exemple, on peut s'apercevoir qu'il y a une amélioration de la qualité de l'eau. Une restauration aussi également de la biodiversité avec un retour de certaines populations donc piscicoles ou de certains invertébrés. Une amélioration aussi du cadre de vie puisque l'humain intervient dans ces restaurations écologiques. Et une attractivité touristique et éducative de certains secteurs qui ont été restaurés. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont effectivement mesurables.
Merci. Lynn, tu as d'autres facteurs ?
Oui, en tout cas, effectivement, sur la prise de conscience, je pense que pour des acteurs de la maîtrise d'ouvrage, les prises de décision, elles passent aussi par les sources de financement. Donc, ce n'est pas mon domaine d'expertise premier, mais en tout cas, on a mené des études pour essayer de faire prendre conscience que les pertes évitées, c'est une valeur aussi, et que ça doit rentrer aussi dans les bilans comptables, et que ça peut faire aussi... sens auprès des financeurs, des bailleurs qui vont apporter certaines sources de financement si c'est bien monté. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? On va essayer de montrer la valeur de tout ce qui n'est pas monétisé pour l'instant. Donc, tous les services écosystémiques, qu'est-ce que ça apporte et comment ces pertes évitées-là, en fait, elles engendrent de la valeur dans les écosystèmes. Et en fait, on se rend compte que sur le long terme, si on arrive à maintenir notamment des zones humides, ça a des valeurs considérables en termes de services écologiques, de sources de puits de carbone. Et ces valeurs-là, si on les prend en compte, directement, ça amène effectivement un autre regard sur le pourquoi est-ce qu'on le fait et comment on peut le faire.
Super.
Alors moi, je vais revenir à des choses très basiques. Le fait d'avoir de la végétation autour des cours d'eau, le fait d'avoir une connexion entre la terre, le végétal et l'eau, c'est l'épuration. Aujourd'hui, on a démontré que la présence de ripisylve et de ripisylve efficace diminue extrêmement fortement les taux en phosphate et en nitrate des eaux. C'est le meilleur antipolluant. Deuxième aspect des choses, on a démontré, alors nos amis américains ont un peu d'avance sur nous, ils ont dans l'Oregon enlevé les barrages sur une grande rivière qui n'avait plus aucun saumon. Après l'enlèvement des barrages, d'une part, le castor est remonté, il a été réimplanté et les saumons sont revenus. Donc on est dans un système où effectivement, on a une capacité à réparer. Aujourd'hui, quand on regarde le parcours que doit faire une baudroie ou un poisson qui vient de la mer pour venir se reproduire sur terre, ou les civelles qui vont remonter, c'est un parcours effroyable. Donc aujourd'hui, en faisant une réflexion globale, alors je dis toujours pas partout, pas tout le temps, on a une capacité à restaurer la biodiversité, à restaurer la biodiversité aquatique et à restaurer les bénéfices de la biodiversité terrestre qui est annexe à notre biodiversité aquatique, et ça va nous apporter des services écosystémiques relativement importants. Demain, dans le midi, le fait de faire ralentir l'eau, de la garder dans la terre un maximum, ça va être la limitation des incendies dans un certain nombre de secteurs. On a vu aux États-Unis que dans des rivières où les techniques low-tech ont été utilisées, les techniques similaires castor, lors des grands feux qu'il y a eu il y a 2 ans, la zone qui avait été réhumidifiée n'avait pas brûlé. Et à partir de cette zone qui est un puits de résilience, c'est par là que la nature va pouvoir recommencer à reboiser les zones qui ont été complètement incendiées. On est sur ce type de recherche et donc on n'a pas toutes les solutions, mais au moins on a quelques outils qu'on essaye de mettre en place et qu'on vous propose pour éviter de continuer dans la catastrophe.
Merci beaucoup. Effectivement, on a vu sur les photos précédemment le fait qu'il y avait des nouvelles techniques. Et ces nouvelles techniques, elles veulent aussi dire, on va dire, des nouvelles compétences. Est-ce qu'il y a certaines compétences que vous voudriez mettre en valeur, notamment, par exemple, qui sont peut-être sur certains territoires particulièrement nécessaires, ou des nouvelles innovations, justement, que vous voudriez rappeler ?
En termes de génie écologique, maintenant qu'on voit les dernières innovations, je pense qu'il faut être pluridisciplinaire. Donc, allier l'écologie aux compétences techniques et surtout avec les dernières innovations en termes d'intelligence artificielle. Je pense que pour moi, ça, c'est un petit peu le futur du génie écologique.
Ok, Lynn ?
Oui, je reviens aussi sur l'idée d'arriver à croiser les besoins de toutes les parties prenantes. Ce matin, il y avait aussi effectivement une vision qui était croisée entre les travaux publics, l'aménagement paysager, puis le génie écologique. Je pense que c'est au travers de la façon dont les personnes effectivement expriment leurs besoins, leurs nécessités et qu'ils confrontent et en la recherche de solutions techniques que là émergent effectivement de vraies solutions qui tiennent en compte de l'ensemble de l'écosystème.
En réfléchissant à cette question, elle est un peu vache. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, on a des outils, on a une expérience, on a un retour, mais on est dans un contexte qui est un contexte de changement climatique, de rupture pour certaines espèces en termes de biodiversité. Et il faut qu'on soit capable aussi de ne pas appliquer des recettes, mais de partir des connaissances que nous avons pour les adapter au nouveau contexte. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans d'ancienneté en travaux de génie végétal. Demain, je ne vais pas appliquer les mêmes recettes. Je ne vais pas mettre les mêmes listes de plantes. Je vais aller chercher peut-être dans des endroits, ça va paraître anachronique, je vais peut-être mettre des plantes qui sont plutôt séchardes méditerranéennes au bord d'une rivière en Haute-Savoie, parce que il y a une déconnexion entre mon sommet de ma rivière et le fond de ma rivière et le lit mineur de ma rivière. Je vais être amené à changer un certain nombre de préconisations, à évoluer dans notre façon de travailler. Et il va falloir qu'on soit toujours dans une souplesse, dans une intelligence et surtout pas dans l'utilisation de catalogues de recettes.
Merci beaucoup. Est-ce que vous aurez par hasard des questions dans la salle ou... Ah, si.
Ça marche? Oui, j'ai une question d'où on vient d'arriver et je voudrais savoir ce que c'est que l'ACER et puis votre organisation, l'Union professionnelle du génie écologique, et comment ça se conjugue avec tout ce qui se fait au niveau de l'écologie, les atlas de la biodiversité par exemple, ou avec les agences de l'eau, etc. Comment ça fonctionne? Je pense que tout le monde aura bien compris l'intérêt de ce que vous racontez, de ce que vous expliquez. Je crois que c'est quand même dans la tête de beaucoup de personnes. Mais comment agir concrètement pour qu'on ait un progrès sensible et rapide de la biodiversité?
Merci beaucoup pour cette question. Donc aujourd'hui, tous mes panélistes sont des membres de cette union. Donc l'union, c'est une fédération d'entreprises du génie écologique. Donc on va avoir des bureaux d'études, des entreprises travaux. Et notre objectif, c'est de fédérer tous ces acteurs, de les faire monter en compétences et aussi de les faire connaître, puisque notre fédération a 15 ans. Donc c'est comparé à d'autres fédérations assez jeunes. Et effectivement, c'est de mettre du lien entre les collectivités, les membres étatiques, donc les ministères, les DREAL, DREAT, etc., pour qu'il y ait du lien entre ceux qui font les travaux, entre guillemets, les maîtres d'ouvrage, donc les demandeurs, on va dire, de projets, et les citoyens. Donc, nous, effectivement, notre objectif, c'est de faire connaître nos nouveaux métiers, de faire connaître nos nouvelles compétences, et de favoriser la compréhension de part des élus de ces métiers qui sont relativement nouveaux.
Alors, oui, vous expliquez donc que vous êtes un ensemble d'entreprises ou de bureaux d'études qui travaillaient sur le domaine, dans le domaine de la biodiversité et de l'écologie. Est-ce qu'il est possible de vous soumettre un projet et que vous l'étudiez? Comment ça se passe exactement avec vous pour aider, bien sûr, les communes à avancer dans leur projet et leur objectif de biodiversité?
Donc nous avons des groupes de travail régionaux qui permettent en fait aux acteurs locaux vraiment de se rencontrer et de rencontrer justement les communautés régionales. Et ensuite, si vous avez un projet en particulier, nous avons un annuaire avec tous les adhérents de l'UPGE pour que vous trouviez, on va dire, le spécialiste qui vous correspond le mieux. Et nous, on fait un lien entre vous et l'adhérent.
Est-ce que vous travaillez, par exemple, avec les collectivités déjà, ou beaucoup, oui.
Donc nous, on travaille très souvent avec les collectivités. Oui. Justement, on leur explique quels sont nos enjeux en tant qu'entreprise et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter. Et c'est plus les adhérents directement qui vont travailler pour les collectivités que nous en tant que fédération. Mais effectivement, nous, on prend les besoins des deux côtés afin qu'on facilite le dialogue.
D'accord, ok, d'accord.
Et vous pouvez nous retrouver justement au salon juste ici, donc au niveau du village du génie écologique, pour rencontrer une trentaine d'adhérents sur 140. Donc c'est déjà un petit goût, on va dire, de l'ensemble de la fédération pour en discuter plus longuement.
Par exemple, je dirais, nous, on a un parc naturel dans notre région. Est-ce que le parc naturel qui adhère à la biodiversité et qui travaille dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité, peut vous rencontrer pour, incrémenter, améliorer et venir nourrir son projet.
Bien sûr, c'est totalement possible. Nous vous invitons à venir passer chez nous pour discuter d'un partenariat ou juste d'un projet avec nos membres. Je remercie beaucoup les panélistes d'aujourd'hui.
Et chez vous, c'est où ?
Juste ici.
Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ben j'ai fini, hein. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Bon, ben, allez-y.
Donc, bonjour. Juste, je me posais une question. Je ne suis pas arrivé au tout début de la conférence. C'est au niveau de l'IA sur le génie écologique et la renaturation sur les rivières, les cours d'eau.
Oui.
On en est à où à ce niveau-là ?
On en est où ? Alors, on est aux prémices, hein, puisque l'intelligence artificielle est en train de se développer et est en train de devenir de plus en plus pertinente. Donc là, actuellement, il y a des systèmes de caméras pour détecter donc, tout ce qui est espèces invasives, plastiques, pollution, etc. Donc, on en est là. Après, on utilise aussi des hydrophones. Donc pour écouter donc les populations de poissons, etc. Grosso modo, je pense qu'on est à la base et ça va évoluer, ça va aller et ça va extrêmement vite, l'intelligence artificielle. Je pense que vous en êtes rendu compte sur toutes les autres utilités qu'on a dans la société. Donc actuellement, on est à la base et ça ne peut que évoluer. Ce sont des solutions qui sont moins coûteuses et qui sont assez pertinentes.
Bonjour, j'ai une question moi par rapport aux entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez des actions de formation au niveau de ces entreprises pour les accompagner pour travailler dans ces milieux sensibles aquatiques notamment ?
Donc nous, on va avoir un ensemble d'entreprises qui se sont justement spécialisées dans la formation, puisque c'est des métiers qui sont extrêmement spécialisés et très techniques. Et donc l'idée, c'est de non seulement entre entreprises adhérentes à l'UPGE, qu'elles puissent se former entre elles, entre experts, mais aussi permettre à d'autres entreprises qui n'ont pas forcément le cœur de génie écologique, de elles aussi se former pour mieux comprendre et mieux discuter dans les formations. Eric, tu voudrais ajouter ?
Au niveau de l'UPGE, on a eu une action de formation importante. La première, on a travaillé avec les ministères pour créer d'une part le diplôme d'ouvrier de génie écologique et d'autre part le titre de le certificat de spécialisation de travaux de mécanisation en génie écologique. Donc c'est une formation qui est bac plus 1 à peu près. Donc, et après, on a travaillé aussi avec le ministère. On a essayé de faire évoluer le BTS GPN vers des choses un peu plus pratico-pratiques parce qu'il manque, de notre point de vue, d'un point de vue pratique. Et par ailleurs, on a un certain nombre de structures à l'intérieur de l'UPGE qui font de la formation. On fait de la formation soit par rapport aux entreprises, soit on intervient, moi par exemple, j'interviens auprès de BTS Paysage, de BTS GPN, j'interviens aussi auprès de licences REMA. On a d'autres collègues qui travaillent beaucoup sur les licences qui interviennent auprès des licences qui font des licences d'inventaire en botanique, etc. Donc on a un travail de sensibilisation et on cherche à faire monter en compétence la filière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dedans, qui n'ont pas les compétences. Je pense à des entreprises de paysage, de TP, qui au démarrage n'ont pas les compétences, mais qui viennent chercher les compétences auprès des autres membres de la filière.
Merci beaucoup. Et effectivement, la fédération a pour objectif non seulement de pallier les tensions de recrutement au niveau de la formation initiale, puisque nous recrutons plus de 7000 personnes par an, et on est dans une croissance minimale de plus de 110% des postes. Donc autant vous dire qu'on a de gros enjeux de formation initiale, mais aussi de formation continue pour que en fait, ces métiers de techniciens, de spécialistes, puissent continuellement se former et répondre aux besoins de demain. Merci.